Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Rousse à nous.
Verratti, là, tu la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Timothée Mémon.
23h de retour dans l'after. On va vous parler des retours houleux de certains joueurs. Un traître, un Judas, un parjure, un renégat, un perfide transfuge, un lâcheur. Certains joueurs que l'on aurait simplement pu qualifier de techniques ou de combatifs ont fini leur carrière avec l'une de ces étiquettes nettement moins flatteuses, pour avoir quitté leur club formateur, pour le club rival, pour avoir choisi la capitale au détriment de la province, pour être passé à l'ennemi, c'est Fiorez, Piquion, Figo, Higuain, Mo Johnson ou encore Götze. Ces joueurs, parmi d'autres, ont en commun d'avoir porté les tuniques de deux clubs rivaux. Une attitude qui ne passera jamais aux yeux des supporters, qui déplaît dans une moindre mesure au grand public. Ceux-là ont eu droit à des broncas mémorables lors de leur retour dans leurs anciens clubs. Alors, messieurs, quels sont les retours les plus terribles dont vous avez le souvenir en Ligue 1, ouais.
Timothée, est-ce qu'on a juste deux secondes pour revenir sur quelque chose que j'ai entendu dans le talk d'avant ou pas? Est-ce qu'on on a deux secondes ou pas?
Je te les offre, ces deux secondes.
Oui. J'entends beaucoup parler, de quand on parle de la reprise, de l'éventuelle réathlétisation et du temps qu'il faudrait ou qu'il faudrait pas et tout. Moi, j'ai lu l'interview de Carlo Ancelotti aujourd'hui dans l'équipe. On lui parle de ça. Le mec, de façon très pragmatique, il dit, écoutez, s'il faut qu'on reprenne, parce que pour tel et tel machin, il dit, on va pas se mettre à chouiner dans tous les sens. Ce sera la même chose pour tout le monde. Tout le monde sera dans la merde ou pas prêt ou ceci, cela. On va arrêter de couiner. Si ça doit se faire en 15 jours, ça se fait en 15 jours. Moi, ça fait une semaine qu'on parle de ces trucs-là. Je n'arrête pas d'entendre dire tout le temps, ah, mais non, c'est pas possible d'être prêt en deux jours, en ceci, en cela. Je trouve qu'on se plaint quand même beaucoup. S'il faut que les mecs soient prêts au bout d'une semaine, eh bien ils seront prêts au bout d'une semaine.
100% d'accord avec toi, Daniel.
Ah, ça va, quoi. C'est bon.
Ce sera préparation. Tout le monde sera.
Tout le monde sera au même point. Et Carlo Ancelotti a ajouté un truc. On s'entraînera en jouant. Enfin, c'est en jouant que ça reviendra.
On va progresser. Ouais,
Voilà.
Et tu fais plus de ce que je voulais dire,
pardonnez-moi.
De toute façon, non, mais t'as raison, parce qu'en plus, 5 semaines de préparation, c'est quand tu prépares une année complète. Là, tu prépares pas une année complète, tu prépares 10 matchs. Et surtout, on va dire, sur ces dernières années, il y a quand même une grosse évolution au niveau des préparations athlétiques, où maintenant les préparations athlétiques sont beaucoup moins dures qu'avant. Elles sont beaucoup plus axées sur des notions de rythme, d'intensité, plutôt que sur des notions de foncier. On court moins aujourd'hui qu'on courait avant. Aujourd'hui, on le fait beaucoup plus avec le ballon. On va travailler plus sur les intensités que sur des longues distances.
Alors, voilà. Tu sais, je suis pas d'accord avec toi. Mon poulet, Willy. Tu sais pourquoi?
Non,
mais tu sais, ouais, parce que en Italie, il y a c'est très cocasse. Non, je rigole quand je dis ça. En Italie, il y a le maire d'une ville qui a dit, écoutez, si après le confinement, je ne vous vois plus courir dans les rues, je vous mettrai tous une amende, vous allez m'entendre. C'est-à-dire qu'il a jamais eu autant de personnes dans sa ville en train de courir autour de ses pâtés de maison dans les rues qu'en ce moment.
J'ai oublié la ville, mais effectivement, il les a invectivés en disant, mais c'est pas possible, vous préparez tous le marathon ou quoi?
donc physiquement, je pense que les joueurs seront prêts.
Effectivement, voilà, la parenthèse est refermée, mais on en fera un sujet sur la réathlétisation dans la dans les jours à venir. C'est effectivement un excellent sujet. On va revenir sur ces idées de traîtres, de Judas, ceux qui ont changé de club. Et pour vous remettre dans l'ambiance, je vous propose cette action.
Enfin, changer de club en allant dans un club rival, un peu ennemi, et dont le retour s'est très mal passé, quoi.
Effectivement. Mais en fait, j'avais tout expliqué dans mon intro, puis tu l'as flingué en parlant de réathlétisation.
Je suis désolé.
Je t'en remercie. Allez, on vous remet dans l'ambiance. Sylvain Armand qui fait parler gestes, parler le parc au retour de Fiorez.
Voilà, c'est mauvais ça.
Ça, c'est le mauvais geste du match. Le tacle par derrière, il va être rouge. Oui, c'est logique.
Il n'hésite pas, monsieur Vessière.
Carton rouge logique pour Sylvain Armand. Et on espère pour Fabrice Fiorez que ce ne sera pas trop grave. Mais comment peut-on faire autrement que d'expulser un joueur après un acte pareil?
Voilà, ce qui est hallucinant dans ce son, c'est qu'avant la sortie du carton, on entend le parc tout à sa joie d'avoir vu Sylvain Armand a découpé Fabrice Fiorez. Fabrice Fiorez, évidemment, qui a joué pour les deux équipes, pour le Paris Saint-Germain et pour l'Olympique de Marseille.
Messieurs, c'était donc en octobre 2004, retour de Fiorez avec le maillot de l'OM. Le départ avait été effectivement très mouvementé, commenté. C'est la fameuse phrase qu'on a entendue mille fois de Vahid qui dit « j'ai vomi quand j'ai appris ça ». Et effectivement, il y avait eu le contexte, c'est des banderoles, parce qu'à l'époque, on avait le droit à ce genre de banderoles assez énormes, non pas seulement sur Fiorez, mais également sur DU, parce qu'il y avait DU aussi dans le package qui était allé à l'OM alors qu'il avait joué au PSG. Donc, accueil, bronca sur les deux, des banderoles, bon, assez insultantes ou drôles au choix, chacun jugera. Bon, elles, franchement, elles étaient assez rigolotes. Et c'était fou parce que Armand se laisse aller, il n'était pas coutumier de ce genre d'agression, et qu'il se laisse aller à un tacle aussi violent par derrière comme ça sur Fiorez, bon bah il l'a complètement descendu. Et c'était en début de partie, hein, le PSG devait jouer une grosse partie du match, moitié de première période et toute la deuxième mi-temps à 10. Et ça a quand même fait 2-1, c'était en octobre 2004, et le PSG avait quand même gagné 2-1, donc le traître avait été puni.
Une énorme bronca. On s'en souvient, et tu le disais, pourtant, Sylvain Armand n'était pas du tout coutumier du fait. Lionel, est-ce que tu te souviens d'un match en particulier? T'as pas de souvenir comme ça?
T'as pas d'Océan Roy qui s'était barré, que vous avez châtié?
Je me disais qu'ayant joué des All Firm, tu avais peut-être le souvenir de l'histoire du pauvre Mo Johnson.
Ah non.
Alors Maurice Johnson, pour vous raconter l'histoire comme ça, c'est un joueur qui était passé par Nantes, qui jouait pour le Celtic, quand il revient de Nantes en Écosse, il doit revenir au Celtic, les Rangers lui font une meilleure offre, et il se retrouve à être le premier catholique à jouer pour le club protestant. Ce qui résulte, il s'est retrouvé haï par les deux clubs, par les deux groupes de supporters. Il se faisait siffler systématiquement et il a eu une fin de carrière terrible. Et pourtant, il a planté un nombre de buts incalculable avec les Rangers, mais c'était quelque chose de terrible. Il fallait voir les All Firm avec Mo Johnson. C'est quelque chose qui doit se retrouver sur Internet.
T'as pas des Stéphanois, toi? T'en as des Stéphanois qui sont allés à Lyon ou inversement? Alors, t'as dû avoir des souvenirs comme ça, toi, Timothée.
Il y a un souvenir récent qui est Baffé Tim Bigomis, mais qui avait laissé un tel souvenir d'élégance à Saint-Étienne que les supporters stéphanois lui en ont jamais voulu outre mesure. Ouais. Mais Frédéric Piquion, qui est passé par l'AS Monaco entre les deux, était revenu sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Il rentre dans un derby face à Saint-Étienne que je commentais à l'époque. Il met une frappe terrible sur la barre transversale, et alors après c'est la catastrophe. En dehors de ça, il a rien fait, il s'est pris les pieds dans le tapis. C'est la première fois que j'ai entendu un stade rire en chœur. C'est-à-dire on entend ils vont faire ouh,
ah, mais ça n'est pas mon
Fred, t'aurais dû l'appeler l'ami Fred,
ah,
là,
ouais,
quand tu nous racontes
ça n'est pas
on a déjà parlé, l'image est assez splendide. Willy, un souvenir peut-être d'un joueur peut-être en Allemagne?
Non,
pas particulièrement.
L'inverse,
des mecs qui ont bien réussi et tout. Il y en a en Angleterre, c'est monnaie courante, et les mecs qui reviennent, ils sont, c'est vraiment, mais ceux qui se plantent et qui se mettent vraiment les pieds dans le tapis comme ça. Moi, j'en ai pas non plus. Hein.
Mais si je me souviens quand même du cas Mathieu Valbuena quand il est revenu sous le maillot de l'OL.
Qui va au Vélodrome, c'était avec la potence et le pendu. Tout le monde avait jugé que c'était allé trop loin.
Et Anelka, c'était comment avec son retour au PSG?
Mais Anelka,
il n'était pas parti pour un ennemi.
Non, il n'était pas parti déjà. Non, ça, il y a pas eu de ce genre
parce
de choses.
Parce qu'il chose. Est parti, il est revenu.
Mais il n'était pas parti pour un club. Oui, il est parti et revenu, mais là, on parle plus du mec qui est revenu avec un maillot différent.
Le traître.
Avec le sentiment vraiment d'avoir trahi, quoi. C'est le.
Ce qui est terrible dans le cas Valbuena.
Juste pour terminer
sur ce cas-là. Ce qui est terrible, c'est que quand il est parti de l'OM, il n'y avait pas encore une telle inimitié entre les deux Olympiques. Il se retrouve à Lyon et il se fait désossé. Je vous propose d'écouter un peu du commentaire, 20 secondes du commentaire de Florent Germain.
Très rapidement, on a vu des choses beaucoup moins rigolotes et moins sympas concernant Valbuena. Au-delà de la banderole où il disait du côté des ultras, tu n'es qu'un traître, on a vu une espèce de réplique d'un petit Valbuena pendu. Oui. Je trouve ça nul. Ce sont des images qu'on pensait vraiment pas voir, mais il faut aussi vous la raconter parce que c'est une réalité. Des fois, il y a des limites.
Oui, ça, je me souviens très bien du pendu.
Je me souviens aussi, ça.
Mais Timothée, comment ça s'était passé pour Coupet, qui est quand même à la base, qui est désormais un gardien et un joueur emblématique de l'OL, mais qui à la base est stéphanois, non?
Absolument. Donc, à la base, il est Pono.
Il est du Puy-en-Velay.
Ouais. Il est du Puy. Il avait été formé à Saint-Étienne.
Il n'a jamais eu de soucis en revenant à Saint-Étienne. Il a jamais été considéré comme le mec qui a trahi sa terre.
Non, pas trahi, mais. En fait, si je me rappelle bien, Timothée, peut-être tu t'en souviens mieux que moi, mais c'était à l'époque où je jouais avec lui à Saint-Étienne. Mm-hmm. Et quand il part, en fait, dans les mois qui ont suivi, il a eu 2-3 paroles malheureuses sur le fait que, bah, forcément, en disant que Lyon est un grand club, que pour lui c'était une super évolution. Et c'est vrai que les supporters de Saint-Étienne lui en ont un petit peu voulu, on va dire, à son premier retour. Après, il est revenu quand même 2-3 fois. Ça s'est quand même mieux passé après.
Plus que 2-3 fois même.
Oui, non, mais je veux dire, c'était surtout au début. Après, c'est quand même rentré dans l'ordre. Mais moi, justement, je suis un peu mal à l'aise avec toutes ces choses-là. Alors oui, parfois, ça peut être marrant quand on va dire c'est du chambrage, quand ça reste bon enfant. Mais parfois, vous voyez des choses. Et tout à l'heure, il y a 2 minutes, on parlait de ce qui s'était passé pour Valbuena. Le problème, c'est que. Avec l'effet de masse, avec le fait d'avoir autant de personnes dans un stade, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limite. Donc ce qui pourrait au départ être un petit peu du chambrage ou au contraire mettre un peu la pression à un joueur pour qu'il soit moins bon, pour que ton club à toi gagne, avec l'effet de masse, ça peut vite déborder. Je trouve ça dangereux.
C'est une réalité, mais c'est aussi pour ça qu'on avait choisi des moments un peu dans l'histoire. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Arthur Robert. Par exemple, Fiorez. C'était pas beau ce qui s'est passé, mais il y a prescription. Et du coup, vu qu'il y a prescription aujourd'hui, on peut s'en souvenir avec un sourire en coin.
Ouais, mais alors, en fait, il faut distinguer plusieurs situations dans ces histoires-là. Avant de dire en tribune, il s'est passé ça, c'est pas beau et tout. Ça, évidemment, mais à la limite, c'est pas tellement le sujet. C'est pour distinguer la façon dont le mec est accueilli quand il revient. C'est aussi comment il se comportait.
Au départ.
Au départ. Exact. Des mecs, Coupet,
exactement.
Il n'y avait pas d'histoire. Mais si on reprend le cas de Fiorez et d'autres, il y a d'autres histoires comme ça, du mec qui sent et tout. Si le mec, déjà, en avait fait des tonnes, d'abord Fiorez avec le PSG avait marqué au Vélodrome et avait chambré le Vélodrome
d'une
façon qui avait absolument ravi le public parisien, et 6 mois plus tard, il se barre à l'OM. Et en fait, son histoire a tellement été pourrie qu'il n'a jamais été accepté par l'OM. Et jamais par le PSG. C'est ça le vrai trait, c'est qu'en fait, tu pues le mercenaire, ce qui fait qu'il fallait pas en faire des tonnes quand t'étais là. Parce qu'un autre, à l'inverse, un mec comme Gabi Ainze
ou Loric Sana.
C'était compliqué.
Je comprends ton propos.
Gabi Ainze, on faisait des tonnes dans les PSG-OM. Il était du PSG-OM, du 3-0 au Vélodrome avec Ronaldinho. Et Dieu sait que ces matchs-là, ça le rendait dingue et tout. Mais on va dire que le mec avait un tel don de soi que finalement, il a été accepté à l'OM. Très bien. Ils l'ont aimé. Et les Parisiens lui en ont voulu. Effectivement, il a été très longtemps considéré comme un traître. Mais avec les années qui sont passées, le respect est un peu revenu. Mais c'est ça, c'est si t'en fais des tonnes quand t'es dans le club pour dire oh ben, l'autre je le déteste, l'autre machin, je surjoue la rivalité, et après quelques mois ou années après tu te retrouves à jouer chez l'autre, tu te dis attends, si tu m'as pris pour un con quoi.
C'est exactement ça, et ça résume un peu ce que je disais sur le cas Gomis et sur le cas Piquion. C'est que Gomis, il est parti avec classe, avec les honneurs, en ayant des beaux mots plein la bouche pour la Saint-Etienne avant d'aller à Lyon, alors que Frédéric Piquion, lui, était parti quelques mois plus tôt en passant par l'AS Monaco, mais en allant au bras de fer avec les dirigeants de l'AS Saint-Etienne et en semant un petit peu la zizanie avec certains supporters. C'était mal passé pour ça, et c'est vrai que la personnalité du dit traître, puisque c'est le mot qu'on a décidé de choisir, fait beaucoup sur l'inimitié beaucoup, qu'il trouve quand il revient.
Regarde, tu dois avoir un autre exemple, Timothée. Là, un ami, Laurent, me dit Romain Bilong,
effectivement, passé par
formé à Lyon et qui va à Saint-Étienne, respecté.
Tu as, dans une moindre mesure, parce que Romain Bilong n'avait pas le talent de Gabi Ainze, mais tu as le même exemple que Gabi Ainze. C'est un joueur qui donnait tout. C'était un rock. Et effectivement, même s'il a toujours clamé qu'il était lyonnais de formation et plutôt de cœur, il a à Saint-Étienne, ça s'est plutôt bien passé. hormis son tout premier match qu'il avait joué en match amical où il y avait un supporter qui était rentré sur la pelouse. Je me souviens, j'y étais. On va prendre un de nos auditeurs, Bilal, qui est avec nous, 31 ans, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Bilal.
Salut les gars. Salut.
Comment Bilal. Ça va? Ça se passe bien? Le
ça
confinement
se passe bien, impeccable. Et vous?
Ça va? T'as des enfants?
Ouais, j'ai une petite fille.
D'accord, un enfant, ressenti 12, c'est à peu près ça le...
Non, ça va. Non, ça va. Bon. ça va aller, un enfant, ça va.
Bon, quel est ton souvenir comme ça de joueur un peu félon?
Bah moi, c'est il en a parlé Daniel tout à l'heure, c'est Fred Déhu, mais ce qui est particulier avec Fred Déhu, c'est que c'est pas le retour qui a été le plus houleux, c'est le départ. Si on se souvient bien, ça s'est passé la finale de Coupe de France, Stade de France, PSG Châteauroux.
Ouais,
les supporters apprennent avant qu'il avait signé pour le PSG, pour l'Olympique de Marseille. Et pendant tout le match, chaque ballon que capitaine du PSG touchait en finale de la Coupe de France, il était sifflé, hué pendant tout le match. Et chose encore plus originale, c'est qu'en portant le trophée, il se faisait insulter par les supporters.
Et il s'est mis à pleurer.
Et on se souvient, c'est un peu cocasse parce qu'on se souvient qu'il y avait aussi Fiorez et Loric Sona qui défendaient Déhu auprès des supporters. Ne l'insultez pas.
Comme par hasard.
Ils ont fait la même chose quelques années plus tard. C'était super cocasse, mais Fred Déhu, c'était vraiment, je pense, c'était le plus marquant parce que c'était le capitaine déjà et en plus il avait attendu une prolongation de la part du PSG qui n'avait pas été du niveau de ses attentes. Donc il s'est dit je vais aller à Marseille. Donc c'était un petit peu une petite vengeance personnelle de la part du joueur envers le club. Donc les supporters l'ont mal pris pour ça également.
Timothée, je peux poser une question à Bilal?
Oui. Vas-y, c'est ton émission.
Bilal, parce que souvent, tu sais, dans les médias, on en fait toujours des caisses sur tout et n'importe quoi. Toi, tu es un supporter, tu es supporter du PSG?
Oui, exact.
Moi, j'aimerais avoir l'avis d'un vrai supporter, pas d'un fin labrac, mais d'un vrai supporter. Quand toi, si jamais aujourd'hui, je sais pas, dans l'équipe du PSG, bon, alors ça serait peut-être rare de nos jours, mais si t'avais un joueur du PSG qui partait à Marseille, alors que il avait défendu les couleurs pendant plusieurs années, comment toi tu aborderais son retour?
Aujourd'hui, ça a beaucoup changé en fait. C'est plus comme avant. On a l'impression que c'est c'est-à-dire que les joueurs, ils sont de moins en moins attachés au club. Donc, je pense qu'avant...
Ah, c'est pas forcément vrai. Encore une fois, Bilal, t'es d'accord avec moi. L'idée, c'est qu'est-ce qu'il faisait? Si le mec ne s'était jamais prononcé et tout, mais si le mec, à chaque conférence de presse, il en faisait des caisses pour en dire « Ouais, moi, j'aime pas l'OM, j'ai jamais aimé l'OM. » Et puis
imaginons
après, tu te retrouves à jouer dans le club là-bas. Ben, en fait, là, Kimpembe, bon, maintenant, il va pas aller à l'OM, mais à l'époque où les deux clubs étaient dans la même catégorie.
Le
fait d'y aller, c'est à la limite pas tant ça qui est délirant. C'est pas le fait d'y aller. C'est le fait de si avant, t'as sans arrêt chié sur l'autre en faisant les gros bras et en disant moi je suis parisien à mort, ou je suis marseillais à mort et je me retrouve à jouer là-bas. Voilà, tu passes pour un con, mais tu passes pour un con auprès des deux. Tu passes pour un con auprès des deux familles. Le vrai traître, c'est celui qui passe pour un con auprès des deux familles.
Non,
c'est le mec qui en avait rajouté.
Ça dépend surtout de la carrure du joueur, c'est-à-dire de l'importance qu'il a.
En plus, ça c'est un autre élément, ça. C'est un autre élément.
Juste un kidam, on s'en fout, on va même pas calculer. Alors que si un mec comme Gabi Heinze, par exemple, pour les supporters parisiens, ça avait fait très mal parce que ce mec-là.
C'était un traître, oui, bien sûr.
Donc pour moi, Déhu, Heinze, pour moi, sincèrement, Fiorez, c'était plus du. À l'époque, c'était le buzz d'avoir quitté le dernier jour du mercato, etc. Mais c'était moins douloureux, entre guillemets, qu'un Fred Déhu ou un Gabi Heinze. Ou je sais pas, par exemple, il y a des joueurs qui par exemple, si tu regardes.
Il y en a un paquet qui avait fait ça, hein. Jérôme Leroy avait fait ça aussi, il était même revenu lui au PSG. En Italie, l'un des exemples les plus fous, c'était Baggio de Florence à la Juve. Et Florence
on va,
à la
on
Juve,
va y venir en Italie, rivalité. On sera avec notre rôle de dame tout à l'heure.
Ah, d'accord, ok.
Ah, pardon.
Bilal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va passer la main justement à l'adversaire, au rival, puisqu'on est avec Mousse. Mousse, sur ma fiche, j'ai marqué que tu as un an, mais j'en doute.
Pardon?
Non, je dis sur ma fiche, j'ai marqué que tu as un an, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Quel âge tu as?
58 ans.
58 ans, Mousse. Le confinement se passe bien?
Très bien, moi j'habite à la campagne et je très très bien, je suis pas malheureux.
Eh ben profite, bel accent. Bon. Tu as un souvenir comme ça en tant que supporter de l'OM d'un retour que t'as pas digéré?
Alors, non, pas digérer, non, parce que moi, les joueurs, pour moi, c'est tous des girouettes. Et ils embrassent tous les cuissons, mais dès qu'ils peuvent se barrer, ils se barrent. Donc, moi, j'aime Paris, moi, j'aime Marseille, moi, j'aime aussi. Ils aiment tous l'argent. Mais bon, ça, c'est mon point de vue personnel. Mais des souvenirs, ouais, j'en ai un. J'en ai un qui est particulier, c'est celui de Joseph-Antoine Bell. À l'époque, le PSG, ça n'existait pas pour nous. La rivalité, c'était entre Bordeaux et l'OM. Monsieur Baize et Monsieur Tapie, deux grands messieurs du football. Et son retour. Hein. Qui c'est qui rigole?
C'est Daniel. Vas-y, Mousse, continue ta démonstration.
Je m'en doutais que c'était Daniel qui rigolait.
Continue ta démonstration,
Mousse. Lui, c'est un fan de Monsieur Ola. C'est pour ça qu'il rigole. Mais,
ah oui, bah oui, oh, voilà. Mais donc, ça, c'est la première fois que j'apprends ça, tiens. Alors, celle-là, elle est bonne.
C'est une boutade. Ouais,
vas-y, continue ton histoire, mon vieux. Vas-y,
et le retour de Joseph-Antoine Bell à Marseille, une chose que j'avais moyennement appréciée parce que.
Il avait reçu les bananes.
Oui, il avait reçu des bananes à l'époque, exactement. Ouais. Voilà. Ouais. Mais après, des joueurs, moi, je vais vous citer.
Au moins, toi, tu es honnête et je te félicite. Tu dois avoir, ouais. Tu dois pas être tout jeune et tu dois avoir une grande expérience du Vélodrome. Toi, tu es honnête parce qu'il y a énormément de Marseillais qui sont dans la négation de cet épisode-là. Mais toi, au moins, tu es honnête et tu le reconnais.
Ouais, non, j'avais pas du tout apprécié. D'ailleurs, je faisais partie d'un groupe de supporters. C'était un boucané et j'avais pas du tout apprécié. Mais c'est pas tout le stade.
Bien sûr.
Après, je vais vous citer un autre joueur qui c'est Bruno Germain. Bruno Germain, il était à l'OM. Il est parti à Paris et il est revenu. Mais vous avez bien précisé une chose.
Mais lui, c'était un Marseillais. Bruno Germain, c'est un peu différent. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Redis-moi ton prénom.
Mousse.
Je sais pas si tu te souviens, Mousse. Bruno Germain, c'est bon. Alors c'était les fameuses. Tu vas peut-être pas aimer le mot, mais les fameuses combines de tapis. C'est qu'à ce moment-là, il veut au PSG Angloma et il dit donnez-moi Angloma et je vous fais un panier avec Fournier, Germain et Pardo. En fait, les joueurs avaient même pas eu le choix. Germain, on lui avait même pas dit tu vas aller au PSG. Il s'est retrouvé dans le panier. Dans le panier de Tapie, je répète, il y avait Fournier, Germain et Pardo. Bon, Tapie a quand même glissé une pomme pourrie, Pardo, parce qu'il était blessé, il pouvait pas jouer. Et en fait, les joueurs avaient quasiment pas eu leur mot à dire dans cet échange. Donc, tu peux pas le. Alors, je sais pas si c'était ce que tu voulais dire. Pardonne-moi si c'est pas ça. Mais Germain avait pas tellement été considéré comme un traître. Germain, c'était pas un traître finalement, parce qu'il avait pas voulu.
Victime du système. Mousse, tu vois.
C'était une victime finalement du système.
Après, je vais vous raconter une autre anecdote. Moi, mon boulot, je travaille dans un magasin de sport et je me retrouve à un séminaire au Parc des Princes avec une marque qui s'appelle Nike. Je me retrouve à une table et qui c'est qui vient manger à ma table ? Édouard Cissé.
Et Mousse, t'es arrivé au Vélodrome et voilà ce qui s'est passé.
Le soir que j'entrais chez moi, je vous dis franchement, je vomis.
Voilà. Mais ça, c'est pour Fiorès, c'était pas pour Édouard Cissé.
Je cherchais tout à l'heure.
On se retrouve à la table et on discute. Et il me dit, on se met à parler de l'OM, partait bouffer. Et il me dit, mais moi, jamais je pourrais jouer à l'OM. Et ça, c'était au mois de mars, ou un truc, dans ces environs-là. Et c'est l'année où Deschamps, il arrive à l'OM. Et on se retrouve aux présentations. Et moi, je faisais partie des groupes des winners. Et quand Deschamps fait la présentation avec José Anigo et le regretté Pape Diouf, et il me reconnaît dans la salle de presse. Et je vais vers lui et je lui dis, tu te souviens de moi? Il me dit, oui, je me souviens. Je dis, comme quoi, il ne faut jamais dire en fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Mais lui aussi, c'est pareil. C'est un garçon qui a été tellement charmant que ça a passé. Parce que quand il est revenu au Parc des Princes, il n'a pas eu une bronca. Voilà. Donc, parce que moi, des joueurs qui sont venus de Paris à Marseille, je peux vous en citer un wagon quand même. Il y a eu Maurice, Bravo, Roche, Ngoti. Il y en a eu pas mal. Hein. Il y a eu même des mecs que vous n'avez pas connus comme Daniel Gereb, Jérôme Alonso. Je vous en citerai, moi, des mecs. Hein.
Après,
le plus qui m'a le plus dérangé, Valbuena, c'est ce truc, la pendule au-dessus des buts, ça a été, ça m'a pas plu.
C'était de trop.
C'était de trop.
Merci beaucoup, Mousse, d'avoir été avec nous.
Je peux passer juste un petit message à l'EHPAD de Rousseau. Je félicite toutes les infirmières et tout le personnel de l'EHPAD de Rousseau qui passe des moments très difficiles en ce moment. Et avoir une grande pensée à un grand monsieur qui est parti, c'est monsieur Papadjou. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà.
Bravo, Mousse. Tu fais bien,
à
Mousse.
Bientôt. Bonne
merci beaucoup, Mousse. Le message est passé et on se joint à ton message, évidemment. On revient dans un instant pour continuer de vous parler des différents parjures dans les différents championnats. Nos drôles de dames seront là pour nous rappeler les pires trahisons en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Timothée Mémon.
23h27, de retour dans l'after, le sourire aux lèvres, on est tranquille, on vous accompagne dans votre confinement pour continuer à parler de football. Évidemment, il se passe pas grand chose sur les terrains, pour ainsi dire, rien du tout, mais on trouve quand même des choses à vous dire, des choses à se remémorer, et on est en train de faire un petit listing, un petit flashback sur les traîtres de l'histoire du football, ceux qui ont changé de club pour aller vers le club ennemi. On a décidé de le faire aussi à l'international avec nos drones de dames. Et j'accueille évidemment Fred Hermel dans le premier lieu.
Hola chicos.
Hola chico, comment ça va?
Salut les amis. Fredo. Ouais, ça va, on fait aller.
Alors Fred Hermel, je vous conseille de le suivre sur Twitter. Je ne le suivais pas avant le confinement, je le suis depuis le confinement. Voilà, ça vous occupe un moment de la journée. On accueille également Polo Breitner. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Timothée, j'adore de plus en plus ton prénom. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Oh là là, et pourquoi?
Alors, j'adore pourquoi. Le prénom Timothée. J'ai le droit.
Ah, je crois que c'est parce que t'étais fait un shampoing tout à l'heure et que.
Non. Tu sais, il reste.
À la camomille.
J'épargne. Non, c'est parce que Polo, c'est un supporter des Verts et qu'il y a Didier Timothée qui est passé là-bas. C'est pour ça.
Absolument.
Oui.
En tout cas, Daniel, excellente vanne et c'est la première fois qu'on me l'a fait. Et puis, on accueille Julien Laurence.
Didier Timothée, qui aujourd'hui est moto-taxi et que j'avais croisé récemment.
Julien Laurence, Koh-Lanta, comment s'est passée ta soirée?
Je me remets juste et je peux rien dire parce que j'ai promis à beaucoup de gens impliqués dans cette émission ce soir de rien dire. Je peux pas spoiler, mais à un moment il y a un truc. Non, je rigole.
Effectivement, vous avez compris, l'équipe de l'After est très 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 branchée. Koh-Lanta. Alors, on va revenir quand même à notre sujet du jour, notre être. Fred.
Moi, perso, je m'en fous. Hein, mais
Fred, bon. En Espagne, clairement, il y a eu pas mal de joueurs comme ça qui sont revenus sur le terrain de leur début. Et puis, il y a quand même eu des cas qui ont un petit peu dépassé les limites. On a des souvenirs assez dingues.
Oui, alors je vérifie un petit peu. Il y a une vingtaine de joueurs qui ont fait l'échange entre Real, des joueurs du Real qui sont partis au Barça ou du Barça qui sont partis au Real. Moi, sincèrement, on va parler de Figo, bien entendu. Je pense que celui que j'ai vu moi, qui a été le plus impressionnant à Madrid, c'est le retour de Luis Enrique. Sincèrement, ça a été parce que faut pas oublier que Luis Enrique, qui était un joueur qui était formé au Sporting de Gijón, qui était très madridiste hein, quand même. Hein, je sais pas si vous en souvenez, mais sur le terrain, c'est quelqu'un qui se défonçait pour son équipe jusqu'à la violence. Hein. On se souviendra notamment le coup qu'il avait pris en Coupe du Monde contre l'Italie en 94.
Bon, avec le nez.
Attends, il avait fini le nez en sang. Mais
Oui,
tu te souviens de toi, ça.
Une pichenette.
Mais bon, si c'était pas lui qui le prenait, c'était l'Italien qui le prenait.
Tu sais que c'est un des coups. C'est peut-être les gens en France ne se souviennent pas. C'était Tassotti. Mais tu sais que ça, c'est tu le sais parce que tu vis en Espagne depuis longtemps. Mais c'est un des moments de foot en Coupe du Monde pour l'Espagne et pour l'Italie dont tout le monde se souvient dans les deux pays.
Exactement.
Les Espagnols se souviennent tous de ce truc-là. Ah,
complètement.
Ce match-là de la Coupe du Monde 94 et de ce qui s'est passé entre Tassotti et Luis Enrique. Moi, j'ai un pote espagnol avec qui j'en parle. À chaque fois que je lui dis, mais il y avait rien. Mais ça le met, mais dans un état de folie pure, quoi.
Il y a trois souvenirs.
Vito, je t'embrasse.
Énorme des Espagnols de l'histoire de la Coupe du Monde. La victoire en 2010. Mmh. Le but d'Iniesta. Luis Enrique Tassotti et Al Gandour, l'arbitre contre la Corée. Voilà, en Coupe du Monde en Corée et au Japon.
Comme pour l'Italie, la Corée est également Bayron Moreno. C'est le même souvenir.
Le retour de Luis Enrique à Madrid, ça a été à chaque fois parce que non seulement Luis Enrique, quand il s'est fâché en fait avec les dirigeants du club, il est parti au Barça et comme c'est quelqu'un de viscéral, du jour au lendemain, il déteste le Real. C'est-à-dire qu'il a aimé le Real, il le déteste, il devient pro-Barça. Dès qu'il faut dire du mal, il dit du mal, à tel point qu'il ne prononçait jamais le mot Real Madrid. Il disait mon ancien, le club où un jour j'ai joué. Enfin, voilà, c'était,
il n'est pas catalan, lui. Il n'est pas catalan.
Ah non, il est asturien. C'est de l'autre côté.
T'as des couples comme ça. Ils s'adorent et après ils peuvent plus se voir. Eh ben, ils s'adorent, ils s'aiment et après ils se. Mais jusqu'à plus prononcer le prénom, non, mais c'est.
Eh ben, on en reparlera après le confinement.
Je suis pas.
Fred, allons droit au but. Parlons de Luis Figo parce que quand on a préparé ces sujets, effectivement, de parjure un petit peu, c'est clairement dans la rédac le nom qui est revenu tout de suite, Luis Figo et son retour à Barcelone avec les couleurs du Real.
Ouais, alors justement, tu vas me permettre de dire une petite chose. Il y avait un cantique à Madrid qui est resté pendant des années. C'était Luis Enrique, ton père c'est Amunique. Voilà, c'était une connerie qui était chantée par tout le Bernabéu.
Oui, je me souviens de
ça. Non, parce que c'est un truc qui est hyper violent. C'était d'une bêtise absolue. Mais enfin, en tout cas, ça durait pendant des années. À chaque fois,
il y avait que la rime qui collait quoi dans cette affaire.
Qui collait, voilà. Enfin bref.
Pour le reste, on sait très bien quels étaient les relents. On sait très bien ce que ça signifiait et ce qu'il y avait là-dessous quoi.
Mais c'était vraiment quelque chose qui a marqué. Alors bien sûr Luis Figo, mais on a parlé l'autre jour des dessous du transfert de Luis Figo au Real. Je vous rappelle que lui ne voulait pas venir et que c'est une histoire d'agent, etc. Enfin bref, on a beaucoup parlé de la bouteille de whisky et de la tête de cochon. Mais c'était pas le premier retour parce que ça c'était en 2002. Le premier retour de Luis Figo, ça se passe au mois d'octobre, donc quelques mois après son arrivée au Real Madrid. Et là, c'est un déluge d'insultes, de bruit, à tel point que je sais plus si une radio ou une télé espagnole avait mis une machine qui enregistre les décibels. Et on avait calculé qu'à chaque fois que Luis Figo touchait la balle pendant le match, le bruit qu'il y avait dans le stade avait autant de décibels que le bruit que fait un avion quand il décolle. Donc c'est dire, et ça avait duré pendant toute la rencontre, à tel point que Luis Figo a raconté après que ça l'avait, en fait, cette haine qu'il avait eue, ça l'avait aidé finalement à s'intégrer au Real Madrid. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples de retours, d'échanges, de haine, etc. Mais il n'y a rien de comparable en Espagne aujourd'hui, en tout cas dans l'histoire moderne, que le Figo à Barcelone. Pourquoi ? Parce que faut pas oublier.
Il
n'y
a jamais eu Betis et Séville, entre Betis et le FC. Il n'y a jamais eu d'histoire dans ces trucs-là.
Ben là, j'ai pas de noms comme ça qui me viennent. Ça m'étonnerait. Alors, il a dû rien avoir, mais pas de grands joueurs. Parce que là, Luis Figo à l'époque, c'était avec Zidane le meilleur joueur du monde. Faut voir aussi ce que faut replacer dans le contexte. Il part en 2000 et là, il est au top du top. Hein. C'est
Figo est l'un des premiers galactiques du Real.
Ah ben c'est le premier.
Il va gagner un Ballon d'Or. Effectivement, on parlait de l'épisode de la tête de cochon. Faut rappeler quand même que effectivement, quand il revient un an plus tard, donc grosso modo un an et demi après sa signature, il y a une tête de cochon grillé qui descend des tribunes, qui lui arrive dessus sur un corner.
Sur un corner, et lui ne le voit pas, et personne ne le voit, parce qu'à l'époque, les réalisations télé, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, surtout quand c'est RMC Sport. C'est-à-dire que c'est un photographe de AS qui avait fait la photo, qui avait fait plusieurs photos rapides, etc. Et cette histoire, on ne l'a connue que le lendemain, en ouvrant le journal AS, parce que la télé n'avait pas repéré, parce que c'est une tête de cochon de lait, donc c'est petit hein, comme cochon, mais c'est vrai que ça a été un moment unique, mais voilà, c'est vraiment incomparable et c'est resté. Aujourd'hui, la haine qu'il y a à Barcelone contre Figo, elle reste intacte. Alors c'est vrai qu'après, moi j'ai vu deux retours personnellement cette saison. Le retour de Griezmann à l'Atlético. Bon, il y a eu une sorte de profanation de l'étoile, vous savez, une sorte de walk of fame autour du Wanda Metropolitano, avec des étoiles, des joueurs et le nom avec son étoile, des joueurs qui sont des joueurs importants qui sont passés par l'Atlético. Bon, là il y avait des gens qui avaient mis un rang en plastique dessus, enfin bref, et puis après c'était fait siffler à chaque fois qu'il jouait le ballon, mais c'était pas comparable avec ce qu'a vécu Luis Figo, de même que le retour de Morata à Bernabéu, c'était il y a 2 mois dans le derby. Morata qui a joué au Real Madrid, qui a été au Castilla en troisième division, donc l'équipe B, l'équipe réserve, et qui joue à l'Atlético. Voilà, il y a eu quelques insultes, il y a eu des sifflets. Enfin, mais ouais, j'insiste.
Rien
de comparable avec Figo. Et vous demandez à n'importe quel supporter de foot en Espagne quel est pour lui le retour le plus dingue qui s'est soit jamais passé. C'est celui de Figo, surtout parce qu'il y en a eu 2 qui ont marqué les esprits.
Mais je peux te dire une chose, Fredo, c'est que clairement, quand on a préparé cette émission, le traître, l'image du type qui a fait le truc le plus impensable, c'est clairement Figo qui revenait systématiquement. On va aller en Allemagne. Polo, une petite histoire du même acabit.
Eh ben, écoute, c'est un joueur qui était pas mauvais non plus, qui s'appelle Andy Müller, Andreas Müller, celui qu'on considère comme le ferrateur. Ouais, super joueur de foot, ferretteur, le traître, le Judas, le Judas. Il faut d'ailleurs, avant de commencer, en fait, c'est son transfert de Dortmund à Schalke en mai 2000 qui a fait beaucoup parler. Je voudrais juste en introduction vous dire que, à la différence peut-être d'autres pays, on s'exprime pas forcément d'une façon très intelligente dans les stades en Allemagne, même s'il y a beaucoup de bruit. C'est souvent parfois à l'extérieur que ça me perturbe beaucoup plus. Je voudrais juste situer le transfert de Manuel Neuer, donc de Schalke au Bayern en 2011. Par la suite, on s'est rendu compte que, par exemple, sur des ponts de Gelsenkirchen, on a trouvé des épouvantails, évidemment, habillés de la tenue de Manuel Neuer, pendus complètement, et je trouve que c'est un peu limite, quand même, dans ses choix
Polo,
des supporters.
Mais Polo, passer de Dortmund à Schalke, ça peut poser problème, mais aller de Schalke au Bayern, ça pose un réel problème, parce que dans ces histoires de traîtrise dont on est en train de parler, est-ce que, pour que ce soit pas un peu plus piquant, un peu plus relevé, il faut pas que finalement on passe d'un club à l'autre et que ces deux clubs, comment dire, aient un peu la même valeur, quoi, en gros. Parce que si tu passes d'un
le problème de Schalke et Dortmund, c'est qu'il y a un litige historique. On en a parlé il y a quelques semaines.
C'est pour Schalke, ça que ça,
Mais Schalke a été considéré longtemps comme le club des nazis, alors que le Bayern, c'est le Jugendclub. Donc à part le club des juifs. Et donc, si tu veux, dès que tu fais des transferts comme ça, il y a une vieille historiographie qui revient systématiquement. Mais Manuel Neuer, évidemment, avait raison de partir au Bayern Munich. Mais ce qu'on reproche plus, évidemment, c'est des gens qui vous parlent d'amour du maillot à longueur de temps. C'était le cas d'Andy Müller. Et ensuite, que le gars se trouve dans un autre transfert.
Et donc, quand il part à Schalke, Andy Müller, quand il quitte Dortmund, parce que Dortmund va pas bien, ou comme ça, quoi?
Ah non, justement. Ah non, mais attends, on est dans les années 4. Donc c'est en 2000, donc c'est mai 2000. Ouais. C'est la fameuse saison 2000-2001. En fait, faut bien comprendre quel est le personnage d'Andy Müller, hein, quand même. Hein, parce qu'il est considéré en Allemagne, comme le truqueur. Hein, c'est quelqu'un, n'oublions pas, qui aimait se rouler par terre, qui aimait en ajouter, d'obtenir des pénaux d'une façon un peu litigieuse. Et il avait même été suspendu par la fédération allemande à cause de ça, à l'époque où il était à Dortmund. C'est aussi le joueur qui représente en Allemagne, mais vraiment, le Judas, le traître, celui qu'il faut abattre absolument. Et c'est le mercenaire dans toute sa splendeur. Et puis, je prends un exemple. Rappelez-vous la finale de l'UEFA 1993, entre la Juve et le Borussia Dortmund. Et ben, qu'est-ce qu'il fait, Andreas Müller? Il est à la Juve. Il est à la Juve, évidemment, avec exactement
3-0, 3-1.
Exactement. Ouais. et en fait, il était de mémoire, il était derrière Roberto Baggio et Viali, et son ancien club, c'était le Borussia Dortmund, et son nouveau, celui qui viendra après, c'est encore le Borussia Dortmund. Donc il est toujours dans les mauvais coups. Et sur son âme-là, il y a une expression d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un boo-man, c'est un peu le bouc émissaire, et Andreas Müller représente exactement ce personnage de traître. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Andreas Müller? Alors, il va sur ses 33 ans. Ça a été une surprise énorme pour tout le monde. Même les journalistes qui couvraient l'événement n'y ont pas cru. Il a été transformé. Alors, il était en fin de contrat. Alors, il paraît, maintenant, Dortmund, à l'époque, fait un peu de communication en disant qu'il lui proposait une deuxième année de contrat. Et finalement, il est transféré chez l'ennemi de Schalke. N'oublions pas qu'en 97, Dortmund gagne la Ligue des Champions et le championnat en 95-96. Que 97, c'est aussi l'UEFA pour Schalke. Donc, c'est deux équipes qui se débrouillent pas mal. Et donc, il y a une véritable opposition. Il y a ce transfert, et le problème, c'est qu'un, à Dortmund, il n'y comprend rien. Mais à Schalke, on n'y comprend rien non plus. C'est-à-dire que les supporters, ils veulent pas d'Andy Müller, à tel point que dans le bus de l'équipe, on se rend compte que Müller, il y a des supporters qui se rendent compte que Müller est assis, et qu'est-ce qu'ils vont? Ben, ils vont secouer le bus comme des fous pour essayer de le faire sortir du bus. Donc, ils sont pas d'accord. Et donc, là, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, évidemment, je vous passe les pancartes ou les banderoles insultantes, fleuries, pour expliquer qu'il faut absolument qu'il dégage, mais y compris celui qui l'avait amené, le manager Rudi Assauer, qui est une idole de Schalke. Et puis, il y a quand même le championnat 2000-2001, où il y a le calendrier. Et boum! Dès septembre 2000, que se passe-t-il? Eh ben, Schalke se déplace à Dortmund, donc à moins de 40 km, pour le retour du traître, à Dortmund, au Westfalenstadion, à l'époque, 69 000 places. Et non pas 80 000 comme maintenant. Que se passe-t-il? Alors, il n'est pas accepté par sa nouvelle équipe, en tout cas par les supporters de la nouvelle équipe. Et évidemment, il se fait siffler bronca non-stop dès qu'il entre sur le terrain, dès qu'on cite son nom. Il se prend des tacles assassins pendant toute la rencontre. Et comme en plus, il a cette réputation de truqueur, tout le monde applaudit dans le stade, on est content. C'est lui, n'oublions pas, qui tire les coups francs à l'époque. Et donc, en première mi-temps, il est du côté de la Sud Tribune, là où il y a les 25 000 personnes qui gueulent tout le temps. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il a un corner et qu'il se reçoit évidemment plein de projectiles sur la tronche, etc. Et hop, qu'est-ce qu'il fait? Il tire les corners le plus rapidement possible pour dérater comme un lapin parce que derrière ça chauffe. Donc c'est comme ça que ça se passe, mais sauf que il fait le match de sa vie pour Schalke. Schalke va l'emporter 4-0 à Dortmund. Oh. Il va l'emporter 4-0 à Dortmund. Alors lui, il va pas faire de passes décisives, mais à l'époque, il est encore meneur de jeu. Alors il va sur ses 33, il est meneur de jeu et tout ça. Et ils font complètement exploser le Borussia Dortmund, à tel point qu'il va se faire accepter finalement ce jour-là par les supporters de Schalke, parce qu'il n'y a rien de plus important pour un supporter de Schalke que de gagner à Dortmund, évidemment, et gagner à domicile. Et donc, ça va hurler évidemment dans le stade parce que ils font comprendre à Schalke que vous êtes en rien sans Andy Müller, etc. Et lui, quand même, va se faire accepter, et ça va être le départ en fait de cette fabuleuse saison où l'année où Schalke a été champion pendant 4 minutes. On a déjà parlé sur l'antenne d'RMC. C'est cette année. Alors d'ailleurs, pendant ce match-là, l'entraîneur, c'est l'arbitre, c'était Markus Merck. C'était le même que celui du dernier match de la saison entre Hambourg et le Bayern Munich d'un certain Willy Sagnol, qui avec cette égalisation à la 94e minute qui donnera le titre au Bayern. Et en fait, Andy Müller va faire une année extraordinaire. Et je voudrais.
Ah si. Schalke.
Ah mais moi je me rappelle de Willy, tu courais partout surtout.
Non mais je me rappelle moi surtout Schalke, quand tu parles d'Andy Müller, mais ils avaient un duo d'attaquants cette année-là, Ebessand et Mpenza, ouais. Ils avaient fait une saison mais extraordinaire.
Exactement. Et ce qui est aussi important, c'est qu'Andy Müller, il avait été élu joueur de l'année avant de faire son transfert à Schalke au Borussia Dortmund, et il avait été élu dans le 11 du siècle du Borussia Dortmund. Il était adulé à Dortmund, et d'un seul coup, le gars, il se part à Schalke comme ça. Alors c'est marrant parce qu'il disait à l'époque, en fait, je voulais changer mon image de pleureuse, de poule mouillée. C'est pour ça que je suis parti à Schalke. Donc c'était un petit peu compliqué, mais ça, c'est un peu Andy Müller. Et voilà, c'était un joueur extraordinaire, mais qui n'a pas gardé pour beaucoup de personnes un extraordinaire amour encore aujourd'hui, puisqu'il est retourné à son ancien club de l'Eintracht Francfort. Il a été 3 fois à l'Eintracht Francfort, et les supporters ne veulent pas qu'il soit dans le staff technique de l'Eintracht Francfort à cause justement de son image de ferretteur, de traître.
Merci Polo pour cette image très complète. Voilà, on a appris une belle histoire de football, elle était fort bien contée, je te remercie. On va clôturer justement ce sujet sur notre être avec Julien Laurence. Tu vas nous parler d'un joueur qui a bercé l'enfance de certains d'entre nous, un peu plus l'adolescence me concernant. C'est Sol Campbell.
Exactement, Sol Campbell et le fameux transfert
Julien.
Arsenal, c'est moche effectivement. C'est d'ailleurs vu ici comme peut-être la plus grande trahison footballistique, en tout cas des années Premier League, c'est sûr. Et dans l'histoire du football anglais, on n'est pas loin. Par exemple, parce que chez les Anglais, il y a des choses qui ne se font pas. Quand tu joues à Manchester United ou à Liverpool, tu ne vas pas dans l'autre club. Ça fait depuis 1964 qu'il n'y a pas eu un transfert direct entre Manchester United et Liverpool, les deux ennemis du nord ou ouest de l'Angleterre.
Ça c'est bien. Depuis 2002, c'est une vraie tradition. Ça, il y a pas ça.
Ça c'est une vraie tradition. Même entre Liverpool et Everton, par exemple, c'est 2002.
le dernier transfert direct entre les deux clubs et entre Tottenham et Arsenal. Ça faisait très très longtemps avant Sol Campbell qu'il n'y avait pas eu un transfert entre les deux clubs. Et Sol Campbell a donc brisé cette tradition. Et de quelle manière? Parce que c'est surtout ça, c'est finalement dans la manière que ça s'est fait qui a le plus heurté, je pense, les supporters de Tottenham et le club en lui-même. C'est que Sol Campbell, qui est arrivé à Tottenham quand il avait 14 ans, qui est devenu le petit prodige du centre de formation, qui est devenu capitaine, qui a fait ses débuts à 17 ans déjà en équipe première, qui est devenu capitaine à 20 ans, qui là à 26 ans et dans les meilleures années de sa carrière,
c'est déjà l'un de l'équipe d'Angleterre grâce à ses performances là-bas.
Tout à fait, et qui est d'ailleurs à ce moment-là vraiment suivi par les plus grands clubs européens en Espagne. Les autres clubs anglais, bien sûr, mais vraiment partout, en Italie aussi, ouais, on parlait beaucoup de Sol Campbell.
En Espagne, ouais,
et
c'est
il
vrai,
a 26 ans. Il lui reste donc plus qu'un an de contrat. À Tottenham, on lui fait une énorme proposition pour prolonger son contrat. Lui, dans toutes les interviews qu'il fait, dit qu'il ne quittera jamais le club et surtout qu'il ne jouera jamais, par exemple, à Arsenal quand on lui pose la question, parce que ça commençait à être un petit peu l'inquiétude au niveau des supporters. Et s'il partait chez l'ennemi juré, et lui jure autant qu'il peut que jamais il portera le maillot rouge d'Arsenal, le maillot rouge et blanc, et qu'à aucun moment il voulait partir de toute façon. Et puis un jour, Arsenal annonce une conférence de presse à leur centre d'entraînement et tout le monde s'attend à ce qu'ils annoncent la signature de Richard Wright, le gardien de Ipswich Town, qui était aussi un jeune gardien plutôt prometteur à l'époque. Et donc au lieu d'avoir par exemple une cinquantaine de journalistes, si ça avait été Sol Campbell, t'as une petite dizaine de mecs qui arrivent, souvent les seconds couteaux, qui sont là à attendre que Richard Wright sorte de derrière la porte pour être annoncé joueur d'Arsenal. Manque de peau, qui ouvre la porte? C'est Sol Campbell. Elle a personne, mais vraiment personne.
Et Daniel, personne s'y attendait.
Secret, Arsène Wenger et David Dean à l'époque étaient donc son vice-président à Arsenal. Ils avaient fait un travail monstrueux. Ça s'est joué sur 48 heures. Ils ont fait le forcing. Et Sol Campbell a donc signé sans que personne le sache, sans que ça, à aucun moment, ça n'avait fuité dans les tabloïds ou dans les Anglais. Ils ont quand même 11 quotidiens nationaux. C'est-à-dire que tous les jours, ils ont 11 journaux qui sortent. Et ben, il y en avait aucun dans les pages sport
qui avait. C'est les petits journalistes qui étaient contents.
Ah ouais, c'est incroyable. Et donc,
comment ça a été expliqué, Julien? Comment il s'est vu que c'était, vu que ça n'arrivait jamais? Est-ce qu'il y a eu une explication? Est-ce que Campbell, parce que j'imagine que les gens lui ont dit, mais comment ça se fait que vous faites ça? Comment ça se fait que vous faites ça? Comment ça se fait que vous trahissez votre club? Et il y a eu un truc ou pas?
Alors, Tottenham de leur côté ont dit d'abord qu'il avait voulu demander trop d'argent, qu'il aurait prolongé, mais à des conditions qui pour le club à ce moment-là étaient sincèrement inatteignables.
Comme ça, Tottenham se dédouane déjà en disant voilà.
Et Sol Campbell, lui, il a la meilleure explication possible. Il leur dit mais attendez, vous n'êtes pas en Ligue des Champions, vous n'êtes même pas en Coupe de l'UEFA à cette époque-là. Vous jouez pas de Coupe d'Europe. Moi, j'ai 26 ans. Je suis courtisé par les plus grands clubs européens. Moi, j'ai besoin de, comme l'a dit Timothée, je viens de faire mes débuts en équipe nationale. J'ai besoin de jouer la Ligue des Champions. J'ai besoin de jouer les Coupes d'Europe. Et surtout, j'ai envie de gagner des titres.
Messieurs, les uns après les autres. Ce qui était très mal perçu, c'est qu'il était en fin de contrat. Il est parti gratuitement. On parlait tout à l'heure de Figo. Ça a quand même rapporté 60 millions, au Barça quand il est arrivé au Real. Et que, à ce moment-là, il y avait d'autres clubs qui jouait la Ligue des Champions, qui lui proposait des gros salaires, et
le Real,
il choisit Arsenal. Et il choisit Arsenal.
Ouais,
c'est vraiment
le Real. Arsenal parce qu'il est,
elle trahit,
parce qu'il est londonien. Parce qu'il est londonien déjà, parce que donc il voulait pas bouger de Londres, ça lui convenait très bien. Parce qu'Arsène Wenger fait un travail exceptionnel, et pas qu'Arsène d'ailleurs, hein, pas qu'Arsène. Je pense que Thierry Henry a passé son coup de fil, je pense que Patrick Vieira a passé son coup de fil aussi. À un moment, il s'est senti tellement voulu, pas simplement par Wenger et par David Dean, mais aussi par le reste de l'effectif, par tous ces grands joueurs, et il s'est dit. Ah, quand même, j'ai quand même une grande chance de remporter des titres, même si c'est que en Angleterre. Et la première saison 2001-2002, ils font le doublé coupe et coupe d'Angleterre et championnat d'Angleterre et première ligue. Et surtout en 2003-2004, ils finissent la saison invincible sans défaite. Et même si ça s'est pas passé comme ils l'auraient souhaité en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, il s'est quand même fait un palmarès assez incroyable pendant ces années à Arsenal.
Ouais. Merci beaucoup, Julien. Merci, Polo. Merci, Fred, d'avoir été.
On a encore une petite seconde quand même ou pas du tout?
Alors, tu sais pas faire une seconde, donc je t'en donne 10.
Non, mais simplement, il y a quand même, dans toutes ces histoires de trahison, il y a un moment, c'est pas toujours une histoire d'argent. C'est aussi une histoire un peu sentimentale quand un club, quand un joueur s'est vraiment senti très important dans un club et qu'il y a un moment, il a l'impression qu'on l'aime plus autant, et ben il a tendance à aller vers l'ennemi. Il y a pas toujours que l'argent. Non mais sérieux, hein, Daniel, tu le sais, c'est vrai. Hein.
C'est possible, effectivement. À creuser.
Toi, ta femme te trompe, tu vas avec la meilleure amie de ta femme, en gros.
Voilà, en gros c'est ça.
Merci Fred pour cette conclusion. Merci Julien, merci Polo. On revient dans un instant pour le quiz de l'After. À tout de suite.
RMC. L'After Foot. Timothée Mémon.
De retour dans l'After, 23h50. Il nous reste quelques minutes pour jouer ensemble. On va faire tout de suite le quiz.
Ça va, c'est bidon. C'est bon, c'est bon.
J'aurai plus jamais le quiz. C'est bon. Le quiz, on accueille Alexis et Julien, nos deux auditeurs. Salut, messieurs.
Salut, Alexis.
D'être avec nous. Alexis, supporter du PSG, Julien, supporter de l'OM. On est un petit peu pressé par le temps. Les équipes ont donc été mises en place par Arthur Robert, que l'on accueille également. Salut, Arthur.
Bonsoir, messieurs.
Les équipes seront les suivantes. Lionel, tu feras équipe avec moi. T'as pas de chance. Alexis, Daniel.
C'est toi qui as pas de chance.
Julien avec Willy. Voilà pour les équipes ce soir. On vous rappelle, chers auditeurs, avant de donner une réponse, vous donnez bien votre prénom de façon à ce que tout le monde se taise et vous écoute et qu'on puisse attribuer dûment les points. C'est parti, cher Arthur.
C'est parti sur le quiz, donc ça sera un quiz sur la saison de Ligue 1. Première question, il faut trouver le point en commun entre Cavani, Maxwell Cornet et Koulouris. Donc c'est sur la saison de Ligue 1 cette année.
Leur nombre de buts.
Cavani,
leur Cornet. Nombre de buts. 4 buts, ils ont marqué tous les 3. 4 buts.
Bien joué Daniel,
1-0 pour l'équipe. Daniel, Alexis. Qui est le meilleur passeur de Ligue 1 cette saison?
Di Maria.
Di Maria.
Ouais.
Di Maria, ça fait 2 points Daniel. Pour Daniel. Alexis, qui a le record de passes décisives sur une saison de Ligue 1.
Jérôme Rotten.
Jérôme Rotten. C'est bon. 3-0.
Daniel aussi là.
Mais toi, t'as eu les questions.
Quel club de Ligue 1 est aujourd'hui virtuellement qualifié pour l'Europa League?
Rennes.
Non, pas Rennes. Non, Rennes, c'est pas
Montpellier, bon. Montpellier, Lille.
C'est bon. Qui a dit Lille?
C'est Julien.
Du coup, Willy, Julien, c'est votre premier point. 3 points pour Daniel.
C'est le quatrième du classement.
Lionel, on fait pas
fort.
Le quatrième, mais oui, quatrième du classement.
J'étais pas du tout dedans. Là.
Je compte sur vous pour ne pas tricher. Les auditeurs ne sont pas acceptés. Ça va être une enchère. Il y a 3 points en jeu.
Alors les auditeurs, on vous met en pause. Allez, juste un instant.
On vous met en pause là-dessus. 3 points en jeu. Combien de joueurs ayant marqué au moins 10 buts cette saison en Ligue 1, vous pouvez me citer? Il y en a 11. Je vais commencer par l'équipe Timothée Lionel. Combien de joueurs vous pouvez me citer?
4, Lionel.
Qui ont fait quoi?
Qui ont marqué au moins 10 buts.
Cette saison en Ligue 1.
Ouais, 4.
4. Willy, est-ce que tu vas au-dessus?
5.
5 pour Willy. Daniel?
Bah, il est avec moi, Willy.
Non, t'es avec Alexis.
Jurais, je pensais que Willy était avec moi.
Non, t'es avec Alexis.
Bah, 6.
6. Timothée, Lionel, est-ce que vous allez au-dessus? Allez, une fois. Deux fois.
Lionel?
Non, je suis incapable.
Non, incapable, d'accord. Très bien. Willy, est-ce que tu vas au-dessus de 6?
Ouais, je laisse Daniel y aller. Ouais.
Allez, vas-y, Daniel.
Alors, Ben Yedder,
c'est bon.
Mbappé,
c'est bon, ça fait 2.
Dembélé,
3.
Benedetto,
c'est bon avec 11 buts, il en reste 2.
Osimhen,
c'est bon.
Bah, il doit y avoir Neymar, non?
Neymar, c'est bon avec 13 buts, ouais. Donc ça fait 3 points en plus pour l'équipe Daniel-Alexis. Donc 6 points en tout, 1 point pour Julien et Willy, Timothée, Lionel, c'est magnifique.
C'est minable.
Vous êtes bien. Il reste du coup Icardi, Diallo, Dolberg, Mbaignang et Bouanga. Magnifique.
Ouh, je l'avais
Bouanga avec 10 buts.
J'aurais pas dit Bouanga.
Messieurs, la dernière victoire de Toulouse en Ligue 1, c'était contre quel club?
Contre Lille.
Contre Lille. Daniel.
Oh là là.
Non, c'est Willy. C'est Willy le premier.
C'est Willy.
Ah bah oui. Je pense pas, moi. Je veux bien donner le point, mais je pense que c'est moi. Hein. Mais...
C'est beau, c'est fair play.
Oh, faudra voir le ralenti. Hein.
On regardera.
Selon moi, Timothée, t'es sûr que c'est pas nous?
Non, Arthur, c'est le seul truc dont je suis sûr, hein, c'est que c'est pas vous. Ça, par contre, ça bouge pas. Donc, on est à 2 points pour Julien et Willy, 6 points pour Daniel et Alexis, et toujours 0 pour Timothée. Et Lionel, qui était l'entraîneur de Toulouse lors de cette défaite?
Lors de la victoire, de la dernière victoire.
Lors de la dernière victoire, autant pour moi.
Comboiré.
7 points, Daniel, Alexis, 2 points.
La démontade.
Willy, Julien. Et très belle performance de notre duo, Timothée, Lionel. Alors.
Moi, je regarde Koh-Lanta replay.
Moi aussi, hein, au final. Je laisse Daniel faire.
Deuxième enchère, messieurs. 3 points en jeu. Les auditeurs, malheureusement, vous ne pouvez pas jouer. Combien d'entraîneurs de Ligue 1 limogé cette saison, vous pouvez me citer? Il y en a 5. Timothée Lionel, on va débuter par vous.
2.
Willy.
3.
Daniel.
Oh, vas-y, je donne les 3 à Willy.
Les 3 à Willy, d'accord. Mmh. Timothée et Lionel, est-ce que vous allez
dessus? Lionel, faut qu'on fasse mieux là.
On dit 4 à nous deux, on va y arriver. On dit 4. C'est beau. Je vous écoute.
Ouais, bon, allez, c'est bon, je vous laisse à 4.
Bon, alors vas-y, Lionel.
Alors attends.
Moi j'en chéris et toi tu dis les noms.
Oula, le alors attends, il est moyen.
Oh, ce duo.
Bon, moi les 4, je les ai, hein, facile les 4, hein, mais bon, c'est
allez,
trop
Timothée.
Tard pour moi, j'imagine.
Comboiré.
Les 4, je les ai, mais il m'en manque.
Comboiré,
celui que t'as dit tout à l'heure.
Comboiré, c'est bon. Allez, 3.
Ouais.
2.
Printemps,
c'est bon.
Ouais, bien,
printemps. Exactement.
Allez, printemps, c'est bon. Il vous en manque 2. Hein.
Où est-ce qu'il y en a eu?
Allez, 3. 2. 1.
Dijon.
Dijon, c'est pas un nom d'entraîneur, hein, je suis désolé.
Non, mais en plus, il s'est pas fait.
Allez, c'est pas bon. Terminé.
Casanova et Jardim.
Monaco.
Ça
Monaco.
Fait 3 points en plus.
Jardim.
3 Jardim. Points en plus pour l'équipe, du coup. Willy, et Julien.
Alors, vas-y, avec Casanova, Jardim et.
Alors, je vais vous dire, il y avait Ghislain Printemps, donc remplacé par Claude Puel. Ouais. Silvigno.
Ah,
on s'en rappelle déjà, c'est terrible.
On est nuls, qu'est-ce
qu'on
est
nuls. Alain Casanova.
Si, bien sûr.
Ouais, Casanova,
voilà.
Et
Jardim,
je l'ai dit,
évidemment.
Moi, ouais, Jardim, ouais.
Mm. Et là, on est bon. Donc, ouais. Ça nous donne 5 points pour l'équipe Willy Julien, et ça fait 3 points en plus pour l'équipe Daniel Alexis, donc 10 points. Et toujours 0 pour notre duo préféré.
Ultime question.
Il reste une question. Alors, depuis la saison.
Et elle est à 11 points.
Question 11 points, effectivement. Depuis la saison 2000-2001. Quel joueur a marqué le plus de buts contre l'OL?
Contre l'OL?
Contre l'OL. Quel est le joueur qui a marqué le plus de buts contre l'OL?
Cavani.
Non.
Ibrahimovic.
Non plus. Alors je vais vous donner un indice, vu qu'on se rapproche. Il a été formé à Lyon. Il a marqué 7 buts contre Lyon. Il a été formé
Gomis.
À Lyon.
Non, ben non, Gomis. Non.
Ah, Benzema.
Non.
Non, je sais qui c'est Loïc Rémy.
En Ligue 1, Loïc Rémy, c'est ça. Exactement.
Oui, c'est
wow, magnifique. Ça te fait 22 points, Dany. C'est énorme.
Oui, c'est Loïc Rémy.
C'est jamais
sûr,
vu 22 points sur un seul quiz. Merci beaucoup, messieurs. Alexis, on va essayer de trouver
bonne
quelque
soirée,
chose
les amis,
à
bon envoyer week-end.
Un t-shirt de l'after. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été également avec nous. Merci, Lionel, pour ta participation à ce quiz très sportif. On se retrouve dans l'after dès demain. On fera un petit tour du côté du football amateur. On va continuer à vous accompagner pendant cette période de confinement. Rendez-vous demain à 10h pour l'after, histoire de se marier un peu ensemble et de parler de foot accessoirement. À demain.
RMC. L'after foot.